France Culture.
Bonjour Catherine Destivelle.
Bonjour Nima.
Hier, on a discuté de votre découverte de l'escalade dans votre enfance, avec votre père qui vous emmène grimper dans les rochers de Fontainebleau, puis de vos premières ascensions dans les Alpes, très jeune, où dès l'âge de 16-17 ans, vous avez déjà grimpé les voies les plus difficiles des Alpes ou du parc des Écrins. Vous semblez assez bien parti quand même pour faire de l'escalade à haute dose. Et pourtant, à 20 ans, en 1980, vous dites que vous vous lassez un peu du milieu.
En fait, le jeu de l'escalade à l'époque était on avait le droit de se tirer sur les pitons en place pour progresser. Et j'avais fait pratiquement toutes les voies les plus dures de l'époque dans ce style. Et du coup, c'était aligner une paroi de plus avec ce genre de technique et j'étais moins motivée. Peut-être aussi parce que j'étais lassée par le fait que j'ai démarré très très jeune et que à 20 ans, je me suis dit qu'est-ce que je fais maintenant? Alors à 20 ans, j'étais kiné, hein. J'avais
été... Oui, donc vous faites des études de kiné.
Ouais, j'ai
finalement.
Fait kiné, j'étais assez jeune pour être kiné. Mais j'ai travaillé donc à 20 ans, pile. Et en faisant kiné, j'ai eu un petit doute sur le fait que je fasse ça toute ma vie. C'est-à-dire que je me voyais pas rester kiné toute ma vie. J'avais envie de faire quelque chose de plus amusant. Et mon rêve, c'était de régler des cascades pour des films de fiction et qu'on m'avait déjà demandé. Et en fait, c'est pour ça que ça m'est pas venu comme ça. Je l'ai pas inventé. C'est-à-dire qu'on m'avait demandé de doubler une actrice pour un film et puis une autre fois pour régler des cordes. Voilà. Et du coup, c'est marrant ça. C'est beaucoup plus marrant que de faire kiné. Et puis c'est là que cette opportunité qui arrive, c'est de grimper pour un film d'escalade.
Donc là, on est en 1985.
Voilà, oui, 85. Et là, j'étais un peu sceptique parce que j'avais beaucoup de malades dont je vais m'occuper. J'avais des patients et puis je grimpais plus, quoi. Est-ce que je vais être capable de faire ce qu'ils me demandent? C'est-à-dire, à l'époque, c'était du 7C. Aucune femme en France n'avait grimpé à ce niveau-là. Il faut dire qu'en escalade, il y a plusieurs degrés de difficulté. Ça démarre au 2, 3, où là, on a besoin d'une main pour avancer. 4, on commence à mettre les mains. 5, un peu plus encore. Et jusqu'à l'époque, c'était 7C. Il y avait peut-être déjà du 8A. Aujourd'hui, on en est au 9C. Hein. Mais bon, à l'époque, c'était le niveau presque maximum. Et du coup, je me suis demandé si j'en allais être capable. J'ai vu que c'était pas un passage trop long, donc je me suis dit, bon, si ça se trouve, comme je viens du bloc, je serais capable de grimper ça. Mais j'avais arrêté de grimper depuis 5 ans. J'ai réfléchi quand même, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et je m'étais dit, c'est le moment pour changer de vie professionnelle si j'ai envie de le faire maintenant. Donc, j'avais un peu d'argent, vu que je travaillais beaucoup. Et j'ai décidé donc de confier mes malades à une amie, de partir m'entraîner pour le film. Et de m'entraîner sérieusement, c'est-à-dire que j'étais kiné, je savais comment m'entraîner. Au bout de 2 mois, j'ai réussi à faire ce que me demandait ce réalisateur. Et alors, il m'avait appelé, moi. Pourquoi moi? Parce que j'avais arrêté l'escalade. C'est parce que je grimpais vite. Quand j'étais jeune, il m'avait vu dans les parois du Verdon grimper très vite. Et pour un film, c'est une bonne qualité d'aller vite, quoi. Mmh. C'est plus marrant. Enfin, à l'image, c'est beaucoup plus facile. Bon, voilà. Et donc, me voilà donc au niveau maximum dans le 7C, là, dans le Verdon. Je fais ce film, ça se passe bien. Après, mes amis me poussent en me disant « Écoute, il y a une compétition qui est organisée en Italie, à Bardonecchia, tu devrais y aller. » Bon, moi, j'avais pas très envie, en fait. Moi, mon but, c'était d'aller régler des cascades dans les films de fiction. Et c'était ça que je voulais faire et devenir, travailler dans le cinéma. Ça me plaisait beaucoup. Mais je me suis dit, allez, un peu poussée par tous ces amis, j'y vais. Et là, j'ai été très, très surprise. J'ai tout gagné. À l'époque, il y avait 3 prix, le style, la vitesse et la difficulté, mais tout ça pour la même voie. Donc, il n'y avait pas 36 voies, il y avait... Voilà. Donc, championne du monde. championne du monde avec du coup des gens qui viennent au pied des voies. Alors à l'époque, mon compagnon c'était Lothar.
Oui, il faut dire un peu qui c'est peut-être Lothar.
Lothar Mauch, M-A-U-C-H. Lothar, et je l'avais rencontré dans le Verdon pendant le tournage du film. Et bon, il est devenu mon compagnon et il m'a accompagné à la compétition et pendant quelqu'un qui avait un peu roulé sa bosse et qui savait gérer les médias, qui savait, et du coup il a commencé à prendre ma carrière en main. Et quand les gens sont venus voir est-ce que vous pouvez mettre ce baudrier là et ces chaussons d'escalade là, lui il a dit oui, mais vous payez combien? En gros, c'était ça. Jamais on avait vu ça en escalade, quoi. C'est-à-dire qu'avoir de l'argent pour représenter une marque, ça ne se faisait pas. Enfin, ça, c'était pas. Et j'ai commencé à gagner un petit peu de sous grâce à Lothar, parce que c'est lui qui a négocié ça. Moi, j'aurais dit oui sans chercher plus, quoi. Et là, j'ai été rémunérée pour grimper avec des chaussons ou avec des baudriers ou avec des vêtements. Et puis, le sponsorisme a commencé à arriver.
À ce moment-là, il y a une forme de scission dans les grimpeurs, avec certains qui acceptent un peu ce jeu et cette médiatisation, et d'autres qui veulent que ça reste plutôt un état d'esprit un peu plus marginal. Et vous, dans un sens, le jeu médiatique, enfin, c'est quelque chose que vous n'avez pas spécialement cherché. Est-ce que vous pourriez parler un peu de cette médiatisation, de cette professionnalisation de l'escalade ? Parce que tout d'un coup, ça devient autre chose.
Oui, alors, dans les années, quand j'étais kiné, il y a un gars qui émerge, c'est Patrick Edlinger. Il y a eu un film qui s'appelait La vie au bout des doigts, et ensuite Opéra Vertical, qui a fait que l'escalade est devenue, est apparue dans les médias. Et Edlinger aussi, Patrick Edlinger, qui était la star de l'époque en escalade. Et lui a été effectivement le premier à vivre de cette passion. Il était partout. Hein. Et il avait des contrats avec des grandes marques, etc. Et du coup, moi, quand je suis allée, après la compétition, quand il y a eu cette proposition d'avoir des sponsors, j'ai vu que c'était possible. Et tout de suite, ça a fait tilt en disant, y a Edlinger qui en vit, pourquoi pas moi ? En même temps, en sachant que j'étais pas Edlinger, quoi. C'est-à-dire que il était magnifique et il était beaucoup plus souple que moi ou que n'importe quelle fille. Enfin, vraiment très beau, avec un corps unique. De dos, c'était un peu androgyne, quoi. On se demandait. Donc c'était un peu un caractère unique. Mais je me disais au fond, je peux tenter. De toute façon, moi, j'avais mon métier de kiné. J'étais pas à la rue. Hein. Si jamais ça allait pas, donc je me suis dit, on va voir. J'ai envie quand même d'essayer de transférer ce niveau que je venais d'acquérir en escalade pure en montagne. Et là, malheureusement, j'étais avec Lothar. J'avais pas été en montagne depuis 5 ans pratiquement. J'ai oublié que j'étais sur un glacier parce que la paroi qu'on voulait gravir était juste à côté du refuge. Et j'étais surexcitée, j'étais vraiment contente, et je suis tombée dans une crevasse, en fait. J'avais pas de corde, j'ai fait 35 mètres de chute. Et là, j'avoue que tous mes rêves se sont envolés. J'ai eu une fracture du bassin et de la colonne vertébrale, de ma faute, hein. Je veux dire, et en plus, Lothar venait de me dire, viens, on va s'encorder un petit peu en dessous pour, par sécurité. Puis, j'ai pas compris ce qu'il disait parce que j'étais persuadée qu'on était sur un évé. Puis j'avais envie de toucher le rocher, enfin la surexcitation, et bref. Donc je tombe au fond de cette crevasse et là, c'était un peu la désillusion. Et à l'hôpital, très vite, même au fond du trou, j'ai réalisé que c'était pas trop grave. Je pouvais tout bouger, j'avais pas de paralysie. Par contre, j'avais pas vu cette fracture du dos, et à l'hôpital non plus, ils l'ont pas vu. Mais bon, peu importe. Je suis ressortie de l'hôpital au bout de 2 semaines.
Est-ce que c'est la première fois que vous faites une vraie grosse chute ?
Ah bah oui, c'est la première fois que je fais une vraie grosse chute. Oui, heureusement. Mais celle-là, elle était 35 mètres, ça fait 11 étages, presque 11 étages d'immeuble. C'est énorme. C'est énorme. Donc j'ai eu beaucoup de chance de pas m'être fait plus mal, et de ne pas me tuer surtout. Et je suis tombée avec les cordes dans le sac, et je pense que les cordes ont peut-être dû amortir un peu. Donc en fait, j'ai eu beaucoup de chance aussi que Lothar soit un alpiniste aguerri, et du coup il a réussi à prévenir une cordée qui était à côté pour descendre lui-même dans la crevasse, parce que faut aller vite hein, dans ces cas-là, il fait une crevasse, il fait froid. Bon, si la personne est blessée, alors moi il m'a dit t'avais les le trou continuait et je voyais que tes pieds, donc il a tiré par les pieds, il m'a ramené vers la surface. Et voilà, et puis il paraît que je lui ai posé la question pendant 20 minutes, je suis où, qu'est-ce qui se passe, où je suis où, enfin, puis jusqu'au moment où j'ai ouvert les yeux et je vois encore cette lueur, je vois le haut de la, je vois la paroi, puis le soleil à la sortie, et donc ça y est, tout revient quoi, je me dis voilà. Et puis là, étant kiné, j'ai fait l'état de mon corps. J'ai bougé les pieds, les mains, les trucs. Je faisais tout check-up pour voir. Bon, et la fracture du bassin, c'était inévitable. Et voilà. Puis après, les secouristes, j'ai eu beaucoup de chance aussi. Ils allaient faire un secours d'une épaule démise, pas au soleil. Et ils se sont dit, elle, c'est plus urgent. Il fait froid, on va la chercher tout de suite. Donc voilà.
Et ce gros accident de montagne, qu'est-ce que ça change ? C'est-à-dire, est-ce que ça repousse un peu vos envies de montagne ? Parce que votre corps est quand même très affecté.
Non, ça repousse pas mes envies de montagne. Ça, par contre, mon idée de régler des cascades s'envolait. C'est-à-dire que je me voyais pas avec mon dos pété faire du trapèze et c'était un peu mon truc. Je voulais faire l'école du cirque, en gros, pour apprendre vraiment à gérer la voltige et tout ça. Et j'y croyais plus. Je me suis dit, merde, là, c'est foutu. Non, ça le fera pas, quoi. Parce que, le corps, il est différent. J'en garde les séquelles encore. Hein. Je veux dire, la vertèbre, elle s'est pas remise. Elle est écrasée. D'autant plus qu'à l'hôpital, ils n'avaient pas vu la fracture. Donc, j'ai pas eu de corset plâtré, j'ai tout fait, je me suis rééduquée comme il fallait, mais il aurait fallu probablement un corset pour me remettre un peu le truc dans le droit, quoi.
Combien de temps est-ce que ça vous a mis pour se remettre cette blessure ?
Alors, la blessure, c'est assez long pour intégrer cette fracture du dos, surtout, mais je dirais que j'ai mis deux ou trois ans pour retourner en montagne, en tout cas. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de se sentir solide. En escalade pure, c'est pas très gênant. On porte pas de sac, on grimpe. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que j'ai fait de la compétition pendant 3-4 ans.
Du coup, vous vous focalisez un peu plus sur la compétition.
Là, complètement, je me focalise sur la compétition, d'autant plus que tout le monde continue à dire que j'étais la meilleure. Donc, j'avais besoin de prouver. Et donc, je me suis entraînée, alors là, vraiment, pour gagner la suivante. Et puis, l'année suivante, Edlinger est venu aussi à la compétition. Donc, tous les deux, on a gagné, chacun dans notre discipline. Et lui, chez les garçons, moi, chez les femmes. Et puis, je suis devenue une vraie professionnelle de l'escalade, où j'avais des contrats, je faisais des films, je faisais un peu de... Voilà, je vivais... pas super bien, parce que c'est que de l'escalade, hein, faut pas non plus rêver. Je gagnais ma vie, mais sans pas mieux que kiné, quoi.
Ouais. Ça devient votre métier, mais ça devient aussi très lourd, la médiatisation. Vous devez faire des photos, vous avez des sponsors.
Alors, la médiatisation m'a obligée à faire de la compétition. C'est assez lourd, parce que j'avais de la pression, en plus. J'étais la fille à battre. Donc, c'était pas si facile à assumer. Mais je comprends tous ces sportifs. Encore nous, l'escalade, on n'est pas nés comme ça. Enfin, on n'a pas grandi avec les compétitions. Les jeunes qui font la compétition d'athlétisme ou tout, ils font ça depuis l'enfance. Nous, non. À 25 ans, j'ai fait ma première compétition et c'était tard. Et j'ai fait ça jusqu'à 30 ans. Et surtout d'accepter le fait d'être jugé, regardé avec ce spectateur. Alors, au début, on était contre les compétitions par rapport à l'environnement. C'est-à-dire que les murs d'escalade, les salles d'escalade n'existaient pas. Du coup, où on faisait ces compétitions, c'était dehors, sur du vrai rocher. Donc ça, c'est un problème, quoi. Il ne peut pas y avoir vraiment spectateur si on ne coupe pas les arbres. Il faut que les parois soient équipées pour. Il ne faut pas que les grimpeurs les voient parce que sinon, ce n'est pas le jeu. C'est contraignant. Et au départ, il y a beaucoup de grimpeurs qui étaient contre les compétitions pour ce problème. C'est-à-dire qu'on ne va pas détruire un site pour faire venir 100 spectateurs, parce qu'à l'époque, il ne fallait pas non plus rêver, hein. Ce n'était pas des milliers, c'était quelques spectateurs. Il y avait aussi cette notion de, moi je l'ai ressenti, et je l'ai senti moi-même, pour moi-même, c'est-à-dire être jugé alors qu'on pense qu'on est le meilleur, c'est un peu dur. En même temps, bon, moi j'ai mis mon orgueil dans ma poche et je me suis dit bon allez, j'y vais. Mais il y en a d'autres qui sont restés sur leur position. Mais il y avait de ça aussi, parce que faut pas croire, les grimpeurs sont compétitifs comme n'importe quel sportif. Et il y en a beaucoup qui, je pense, n'ont pas eu le courage d'aller s'affronter. Et Edlinger, il l'a fait.
Vous êtes compétitrice?
Oui, oui et non. C'est-à-dire que oui, il y a un rocher, s'il y en a un qui le réussit, j'essaye de le faire aussi. Et puis j'espère bien être la première à le faire. Enfin, voilà, je suis compétitive, forcément. Mais par jeu, enfin, c'est le jeu. Mais compétitive, faire de la vraie compétition, en tout cas, moi, je perds mes moyens. Alors, après. Voilà, je suis pas compétitive dans l'âme. Par exemple, Lynn Hill, qui était l'américaine, qui était ma rivale en fait. Elle adorait ça. Elle adorait ça. Puis elle me fusillait du regard quand on allait grimper. Ça me mettait mal. Je me souviens. Mais elle a fait de la compétition de gymnastique et tout. Elle aimait ça. Enfin, c'était son truc.
Et Lynn Hill que vous battez en 1986 à la compétition la deuxième compétition de Bardonecchia, qui devient une compétition internationale. Donc là, vous devenez doublement championne du monde. Et dans votre livre, Ascension, vous dites de cette période-là, beaucoup de travail, mais pas beaucoup de joie ni de recul, pas d'émotion, pas de lecture, plus de musique, je devenais une machine.
Ce qui est vrai, c'est comme tous les sportifs de haut niveau, on est obligé de s'entraîner. En plus, nous, on n'avait pas d'entraîneur, donc on était toujours sous pression à se dire, est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Comment je peux m'entraîner? Puis, on pouvait passer des journées entières à s'entraîner, ce qui n'était pas bon, en fait, parce qu'on était fatigué. Arrivé à la compétition, on était naze. Et Patrick Edlinger a fait la même erreur que moi. C'est-à-dire qu'on arrivait, mais épuisé aux compètes, alors qu'on aurait dû prendre plus de recul, savoir mieux gérer les entraînements. Mais à l'époque, ça n'existait pas. On faisait comme on le sentait. Puis c'est tout. Et puis, une semaine avant, on essayait de perdre un peu de poids encore pour être le plus léger possible. Mais moi, j'ai jamais été une anorexique, hein, mais j'étais la plus grosse du circuit. Mais malgré tout, un kilo en moins, ça le fait, quoi. Mais c'était complètement empirique. On faisait comme on le sentait. Alors moi, j'avais heureusement une formation de kiné qui m'a aidée à gérer ça. Mais ceux qui l'avaient pas, ils faisaient des grosses erreurs. Puis après, j'ai abandonné la compétition parce que mon souhait, c'était de retourner en montagne plus, parce que c'était là que je me sentais plus, beaucoup plus libre et plus. Puis j'avais des ambitions aussi. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'ai fait pas mal d'alpinisme et je m'étais dit, mais sans le formuler, un jour je ferai la face nord de l'Eiger, un jour je ferai ci, un jour je ferai ça. Puis là, enfin, tout s'alignait pour que je puisse le faire. Je l'ai pas cherché, mais à un moment donné, je me suis sentie assez forte pour pouvoir me dire là maintenant je peux.
En fait, vous avez attendu d'être assez forte et assez à l'aise en escalade pour vraiment transférer un peu votre niveau d'escalade en alpinisme.
Un peu ça, sauf que l'escalade de compétition ou l'escalade sportive, ça se fait sur des terrains complètement aseptisés, c'est-à-dire que on peut tomber. A priori, on va pas se faire mal. Hein. Et du coup, en grimper en traditionnel, ce qu'on appelle traditionnel, c'est-à-dire de mettre des points soi-même, soit mettre des pitons, soit des coinceurs, soit ce qu'on appelle des systèmes à cam qui s'appellent des friends, comme des amis. Et j'étais plus à l'aise comme avant. J'avais oublié tout ça. Et la compétition, en fait, enferme dans un mode. On est complètement différent. Et du coup, quand je suis retournée à la montagne, j'étais plus la même. J'étais plus la même. J'ai eu peur parce que je me suis dit, ça va pas revenir, c'est pas possible.
Ça veut dire quoi, vous étiez plus la même?
J'étais plus comme un chamois, quoi. J'étais formatée, je cherchais le point d'assurance. Alors que, avant, non. Je le mettais quand j'avais envie. Mais j'avais pas peur. Entre les points d'assurance, je pouvais faire 10 mètres sans me faire peur. Et là, j'avais un peu peur parce que j'étais plus habituée à ça. Et aussi parce que peut-être que je me sentais encore fragile. Je sais pas, mais.
À cause de votre blessure?
À cause de ma blessure. Le dos, le bassin, j'étais pas complètement remise. Et comme quand j'allais dans le Verdon, je me souviens, à l'époque, il y avait le Verdon, c'est donc des grandes parois qui font 300 mètres. On pouvait, on mettait nous-mêmes nos protections et ça me dérangeait pas. Je mettais deux points dans la longueur et puis ça s'arrêtait là, quoi. Et ça, après les compétitions, je ne savais plus le faire.
C'est-à-dire que tout d'un coup, vous vous mettez un peu à chercher le point d'après et à avoir peur.
J'avais peur. Je me sentais plus libre dans ma tête comme avant. Que je sois en solo ou en cordée, c'était pareil, quoi, presque.
Mmh. Oui, on va en parler, ça, de ce que c'est que le solo dans le troisième épisode. Qu'est-ce que ça fait dans cette époque des années 80-90 d'être une femme qui grimpe? Est-ce qu'on considère que c'est pas un sport pour les filles?
Alors, pour être honnête, moi, j'ai jamais ressenti... c'est le fait que je sois une femme m'a jamais gênée. Par contre, ce qui m'amusait, c'est quand j'avais 13, 14, 15 ans, quand je faisais des voies dans les falaises de la banlieue, enfin, du sud de Paris, quand je les faisais en tête, tout d'un coup, je voyais des garçons y aller en disant, bah, nous aussi. Puis en fait, ils échouaient. Donc là, ça me faisait rire parce qu'ils pensaient que parce que j'étais une femme, ils allaient le faire. Mais ça s'arrêtait là. C'était juste, ça m'amusait, quoi. Mais en fait, à l'époque, on voyait personne. On voyait, il y avait 10 grimpeurs autour de nous, puis du coup, comme j'étais moi prise comme un alpiniste ou une grimpeuse comme eux, j'ai jamais fait la différence entre bah parce que je suis une femme, je dois faire ci ou ça. Enfin, j'ai été toujours traitée comme un élément grimpeur, quoi. Et du coup, j'ai jamais été dérangée par un regard méprisant ou du coup, j'ai du mal à parler de ça parce que ça m'a jamais touchée.
Oui, mais c'est vrai que quand même, quand on voit les images de vous dans les années 80 et 90, vous êtes maquillée, il y a quand même des vêtements.
Alors, pour être honnête, c'est Lothar qui voulait que je m'habille comme ça parce qu'il lui, il était mannequin au départ. Et après, il a fait des vêtements, et puis il m'a dit, bon, on va faire des photos, voilà, et il voulait que j'ai une jolie tenue, mais dans le vrai, je faisais des photos avec ces tenues-là, mais en vrai, j'étais jamais habillée comme ça. J'avais un survêtement complètement pourri, voilà, et ça, c'est vrai que c'est Lothar qui a un peu formaté cette image-là. Quelque part, ça me dérangeait. En même temps, je voyais bien que bah, il avait peut-être raison. c'était une façon de mettre la femme en valeur, mais ça me gênait beaucoup.
Ouais.
Mais bon, voilà, faut dire que moi, Lothar, il me couvait, quoi. C'était mon mentor, mon entraîneur, à l'époque, mon compagnon aussi. C'était un peu tout mélangé. Et du coup, je faisais ce qu'il disait, quoi. En gros.
C'est lui qui vous a beaucoup poussé à faire de la compétition et
oui.
Dans cette médiatisation-là?
C'est lui qui m'a poussé à aller vers cette carrière professionnelle. Ouais. Et puis, comme il y avait des contrats, je me sentais obligée d'assumer, quoi. Enfin, il fallait assumer. Je touche de l'argent pour porter les chaussons d'escalade. Il faut que j'aille aux compétitions, c'est normal. Si j'y avais pas été, c'est tout. J'allais me couper les vivres et puis ça s'arrêtait là. Enfin, le sponsor. Puis comme Lothar se donnait beaucoup de mal pour négocier tout ça, je me dis bon allez, on y va. En même temps, j'avais une vie sympa, hein. Je veux dire, je faisais que grimper et je quand même pas trop à me plaindre. Mais c'était un côté qui était plus difficile et c'est vrai qu'il fallait s'entraîner aussi pour par orgueil aussi garder la même place quoi.
Et est-ce que c'est parce que vous en avez un peu marre enfin, vous dites dans votre livre du cirque médiatique que vous allez arrêter la compétition en 90?
Il y avait ça un petit peu, mais il y avait aussi le fait que je souhaitais vraiment, j'avais envie de retourner en montagne, mais je pouvais pas faire les deux en même temps. C'est-à-dire que c'est la montagne ou l'escalade pure. Si je faisais de la montagne en même temps que l'escalade, j'aurais perdu mon niveau. Donc, parce que la montagne, c'est autre chose. Il faut marcher. On évolue dans la glace, dans la neige, en haute altitude. Enfin, c'est pas du tout pareil. L'escalade pure, c'est de la gymnastique, vraiment, en vrai. Et du coup, la montagne, comment je pourrais le comparer? C'est plutôt un trail un peu un peu accidenté. mais voilà, c'est l'un ou l'autre. Donc, à un moment donné, j'avais des rêves de montagne et des rêves d'ascension, de certaines ascensions. Je me suis dit, si je ne me donne pas les moyens, je ne les ferai jamais. Donc, il faut que j'arrête la compétition et que j'embraye sur la montagne. Lothar était contre.
Et un jour, vous lui avez dit...
Ben oui, j'ai dû... Voilà, c'est un peu un divorce, presque. Hein, de dire, bon, maintenant, je vais en montagne. Point. Mais il a eu du mal à l'accepter, parce que lui, il a fait beaucoup de montagne, il sait que c'est dangereux. Enfin, voilà.
Merci, Catherine Destivelle. On se retrouve demain pour notre troisième épisode. Demain, on va parler aussi d'escalade et de montagne dans sa dimension plus sensorielle, plus vertigineuse aussi, et de votre rapport à la peur, au risque. Et on abordera un style que vous avez beaucoup pratiqué en escalade et en montagne, qui est la forme la plus pure, mais aussi la plus dangereuse. C'est le solo, c'est-à-dire grimper totalement seul, sans corde. C'était À Voix Nue, réalisation Anne de Pelchin, prise de son Alexandra Bergel, chargée de programme Daphné Abgral, une série de Nima Cartier disponible sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. We were leaving the mountain, it needed the day. I watched as the whiteness melted away. Driver like talking with the hills in his eyes, and he mentioned a forest buried in ice. He wanted to go and show it off, listening, and it all came alive in Allison and Arcady crisp Edelweiss, just in the woods that rang in my mind. It really did glow like art in a gallery in the mind, and then it was vanishing, and that place that was there deep in the land, it put something new in the air. Down in the valley, letting out smoke and signs of landslides, I saw as he spoke. Dad said, let's go there, it's right on our way. But we didn't have time to, we'll see it someday. He wanted to go and show it off, glistening, and it all came alive. Listening, I could eat crisp Edelweiss just in the woods that rang in my mind. It really did glow like art in a gallery in the mind, and then it was vanishing, and that place in the land, one of those things you try but you can't understand. One of those things you try, but you can't understand. Show it off, glistening, listening. Edelweiss running our minds. Out in a gallery, and then it was vanishing. That was there, deep in the land. It put something new in the air.